Le magazine des Nations Unies.
Nous vous retrouvons avec plaisir ce dimanche pour le magazine des Nations Unies dont voici les titres. La MONUSCO va renforcer ses opérations militaires en appui aux forces armées de la RDC en Ituri, annonce faite mercredi dernier par le général Carlos dos Santos Cruz, commandant des forces de la MONUSCO. Objectif, mettre fin à l'activisme des miliciens du Front de Résistance Patriotique de l'Ituri, le FRPI. Les détails dans cette édition. Et puis, le général Abdallah Wafi rassure que Kisangani ne sera qu'un lieu de transit temporaire pour les 1400 FDLR et leurs dépendants qui, au final, doivent trouver des pays d'accueil. Le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU confirme par ailleurs le soutien de la MONUSCO au plan DDR3 du gouvernement avec 8 millions de dollars américains. Il est l'invité de notre magazine. Enfin, l'UNESCO s'investit davantage dans le renforcement des capacités des radios communautaires en RDC. Un atelier organisé à Kinshasa vise justement à doter ces médias des rudiments de marketing et des logiciels des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le représentant de l'UNESCO en RDC nous en dira plus dans notre rubrique décryptage.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
La situation sécuritaire en Ituri est dominée par l'activisme des miliciens du Front de Résistance Patriotique de l'Ituri, le FRPI, notamment actif dans les localités situées au sud du territoire d'Irumu. Le sujet est revenu mercredi dernier à la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies. Que faire pour réduire la force de nuisance de cette milice qui tue et pille en Ituri? Le général Carlos dos Santos Cruz, commandant des forces de la MONUSCO, estime qu'il faut renforcer les opérations militaires contre ces miliciens. Écoutez ces propos expliqués et complétés par le colonel Félix Bass, porte-parole militaire de la MONUSCO.
En fait, juste pour reprendre un peu le général et compléter, il est évident que c'est les opérations sur le terrain contre le Front de Résistance Patriotique de l'Ituri se mènent depuis un an, mais pas de manière aussi agressive. Donc, vous avez raison de poser cette question-là qui est prise en compte, parce qu'il y aura un accroissement non seulement de déploiement de forces pour renforcer justement l'Ituri, mais au-delà de l'appui logistique qui est donné au FRDC contre les FRPI, il faut considérer une seule chose, c'est que nous avons aussi l'appui tactique par le déploiement de certaines bases opérationnelles.
Le général dos Santos reconnaît la présence de groupuscules de cette milice dans la région. Toutefois, selon lui, ces miliciens n'ont pas le contrôle du secteur.
Il n'y a pas de contrôle pour les FRPI, mais il y a beaucoup de petits groupes qui font les actions dans les villes.
Ces propos ont été recueillis par Jean-Pierre Elali Ikoko.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Quatre radios communautaires bénéficient du projet Renforcer les radios locales par l'éthique. Il s'agit des radios Bangou de Kimpese, Kimvula Nalutondo de Kenge, la radio communautaire de Mwanda et la radio Deo Gracias de Kasumbalesa. La troisième étape de ce projet a été lancée le 14 juillet dernier à Kinshasa au cours d'un atelier sur les techniques de marketing et l'utilisation des logiciels dans les radios locales. Monsieur Abdourahama Diallo, représentant de l'UNESCO RDC, nous donne ici un éclairage sur ce projet. Il répond aux questions d'Honoré Missenga Kalala.
Monsieur le représentant, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qu'une radio communautaire?
Une radio communautaire, c'est une radio de proximité. C'est une radio de proximité, c'est une radio qui va donc s'adresser à un champ assez réduit au niveau de la portée, mais qui a pour objectif d'être vraiment de proximité, échanger sur des préoccupations locales et dans un dialogue très interactif et pour vraiment répondre aux préoccupations des différentes communautés.
Donc radio communautaire égale radio locale.
Radio communautaire égale radio locale, et en particulier radio locale dans les zones les plus reculées, les zones qui ne peuvent pas être couvertes par les grandes radios.
Voilà. Alors, monsieur le représentant, pourquoi l'UNESCO s'intéresse-t-elle à ces radios communautaires?
Avant tout, l'UNESCO, l'un de nos mandats, c'est la communication et l'information. c'est l'UNESCO, nos mandats c'est éducation, sciences, culture, communication, information. Donc c'est l'un de nos mandats à nous occuper de la communication, appuyer ainsi tous les systèmes d'information, échange d'information, donc au niveau local comme à un niveau beaucoup plus large. Donc c'est une obligation pour nous d'être auprès des partenaires des médias, qu'ils soient au niveau national, au niveau local, et que ce soit la société civile, que ce soit au niveau des entités institutionnelles. Donc c'est une coopération technique, renforcement de capacités diverses, partage d'informations, et puis partage de nouvelles technologies. C'est en ce sens que ce projet, qui est financé par la coopération suédoise, met l'accent sur l'intégration des technologies de l'information et de la communication au niveau des radios locales.
Jusqu'où ira l'UNESCO avec ce projet ?
Ben écoutez, pour l'instant, on peut dire que ça a été une étape pilote, parce que le projet a été lancé en 2012, mais avec 4 radios uniquement, 4 radios locales. Deux dans le Bas-Congo, une à Kenge, une autre à Lumumbashi, dans le Katanga. Donc ces 4 radios, vous comprendrez qu'à l'échelle de la République démocratique du Congo, c'est un échantillon qui est très petit, mais c'est un échantillon qui est très intéressant parce qu'il nous permet de bien mesurer les progrès qui sont enregistrés avec cette méthodologie. Notre ambition, dans un premier temps, toujours dans le cadre d'un financement de la coopération suédoise, c'est de doubler le nombre de 2015 à 2017, mais nous souhaitons aussi élargir la surface des partenaires. Nous allons après leur présenter le produit en disant voilà comment nous avons travaillé pendant 3-4 ans avec telle radio, nous avons renforcé leur capacité dans tel et tel aspect, intégration des technologies de l'information et de la communication, formation sur le marketing, utilisation de certains logiciels, etc., formation pour la gestion d'une radio, etc. Donc nous souhaitons partager ce résultat avec d'autres partenaires pour bien sûr multiplier le nombre de radios locales qui pourront bénéficier de cet exercice.
Alors vous avez démarré le projet en 2012, est-ce qu'on peut faire un bilan ?
Le bilan, je vous enverrai tout à l'heure, vous irez poser les questions aux représentants des 4 radios. Le bilan est satisfaisant, nous mesurons les progrès qui ont été enregistrés vraiment au niveau de ces 4 radios. Elles ne sont pas toutes au même niveau. Certains ont plus de difficultés, notamment pour l'appropriation des matériels, des nouvelles techniques et de ces technologies de l'information et de la communication. Mais dans l'ensemble, nous avons vraiment mesuré une amélioration dans la production des contenus, dans la proximité donc qui a été améliorée avec les auditeurs, dans la gestion de leur entité aussi. Il y a des projets considérables qui ont été enregistrés.
Est-ce que vous avez peut-être un mot, une recommandation à faire à votre partenaire, enfin aux financiers de ce projet, la Suède ?
Mais avant tout, c'est de le remercier. La Suède a toujours été aux côtés de l'UNESCO et bon, c'est la question vraiment de l'information du public, la communication et l'information est très importante pour la Suède, la liberté de la presse également. Ben, nous tenons à les remercier. En fait, ce projet, c'est la RDC et plusieurs autres pays de l'Afrique australe et de l'Afrique de l'Est qui en bénéficient. Nous les remercions, mais nous lançons un appel pour un financement supplémentaire pour multiplier la surface des radios locales, parce que ici, vraiment, la RDC est un mini-continent. L'idéal serait qu'on ait une radio dans chaque province, au moins, bien couvrir une province pour bien mesurer l'impact de l'intégration d'éthique dans les radios.
Peut-être en dehors de la Suède, un appel à d'autres éventuels bailleurs.
Tout à fait. Nous souhaitons, d'ici la fin de l'année, organiser une petite table ronde où nous allons présenter ce produit. Présenter l'expérience, montrer qu'est-ce qui a été fait depuis 2012 à 2013, montrer les résultats qui ont été enregistrés et inviter ainsi certains partenaires aussi à rejoindre la Suède pour financer ce programme.
Merci, monsieur le représentant de l'UNESCO en RDC.
Merci à vous.
Et pour pour les nouvelles en bref. Lutte contre la malnutrition. Le département d'aide humanitaire et de protection civile de la Commission européenne, ECHO en sigle, s'engage aux côtés de l'UNICEF en RDC pour 3,6 millions d'euros. Selon un communiqué conjoint de ces deux institutions daté du 16 juillet dernier à Kinshasa, ECHO a également mis 6 millions d'euros à disposition du projet Réponse rapide au mouvement de population RRMP. Comment combattre le wilt bactérien du bananier? C'est l'objet d'une rencontre tenue du 15 au 16 juillet dernier à Bukavu, au sud Kivu, entre des experts de la FAO, du ministère de l'Agriculture et du Développement Rural et de la Commission nationale des maladies et ravageurs des plantes. Pendant deux jours, les participants ont débattu sur les informations techniques, les leçons apprises, l'harmonisation des méthodes d'intervention et l'actualisation de la stratégie nationale de lutte et gestion de cette maladie. Selon le bureau de la FAO RDC, quatre provinces sont particulièrement affectées par le wilt bactérien du bananier. Il s'agit des deux Kivu, du Katanga et de la province orientale. Autre rencontre à signaler, cette fois-ci avec le PNUD, c'est celle du 11 juillet 2014 autour du projet Appui aux communautés rurales. Une rencontre à laquelle ont pris part des entreprises du secteur privé dont Airtel et Rawbank. Dans le cadre de ce projet, le territoire de Walungu, au sud Kivu, a été identifié comme la zone pilote d'intervention à cause de la persistance de la pauvreté, caractérisée par le faible accès aux services sociaux de base, un faible niveau de revenus, ainsi que par les stigmates de plusieurs années de conflits armés. Enfin, vous le savez certainement, le monde a célébré ce 18 juillet la 4e journée internationale Nelson Mandela. À Kinshasa, la MONUSCO a apporté son soutien à la commémoration de cette journée à l'université de Kinshasa. Le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU et coordonnateur humanitaire en RDC, Mustapha Soumaré, a présidé cette activité initiée par l'Institut pour la démocratie, la gouvernance, la paix et le développement en Afrique.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Jean-Pierre Elali Coco est dans ce studio pour nous présenter l'invité du jour. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour Lily Bettina.
Alors ce dimanche, le magazine des Nations Unies reçoit le général Abdallah Wafi.
Oui, Lily, le général Abdallah Wafi est le représentant spécial adjoint du Ban Ki-moon en RDC. Il est chargé des opérations dans l'Est. C'est à ce titre justement que nous le recevons. Il faut dire que le général Wafi joue un rôle important dans l'appui que la MONUSCO apporte au gouvernement dans ces domaines. C'est bien lui qui dirigeait toutes les opérations de la MONUSCO dans l'Est, qu'il s'agisse de l'appui à la démobilisation et réinsertion des groupes armés, et notamment des FDLR ou du rapatriement des ex-combattants M23 en exil en Ouganda et au Rwanda. Nous l'interrogeons aussi sur un fait d'actualité, Bettina. Il s'agit du transfert des FDLR du Kivu à Kisangani, et aussi sur la contribution de la MONUSCO au plan DDR3. Sans tarder, et je vous propose donc de suivre un autre entretien. Général Abdallah Wafi, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être dans ces studios de Radio Kapi. Nous allons commencer par une question d'actualité. Vous avez été rencontrer les vice-premiers ministres et ministres de la Défense. Est-ce que nous pouvons connaître la teneur de vos entretiens?
Oui, effectivement, j'ai rencontré le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, la semaine dernière. C'était d'abord une réunion préparatoire pour évoquer les questions, notamment qui ont trait avec le plan national numéro 3, le PNDDR3. Et nous avons eu aussi à discuter de la question de l'opération des armements volontaires des FDLR en cours actuellement dans le Kivu, et aussi, dans une certaine mesure, des éléments ex-M23 qui sont actuellement réfugiés en Ouganda et au Rwanda. Alors, le premier point concernait le PNDDR numéro 3. La MONUSCO, la communauté internationale, la Banque mondiale a soutenu les autorités nationales en charge du DDR pour concevoir et surtout pour enrichir le document que le gouvernement avait soumis à la communauté internationale. Après de longs débats, après des travaux d'enrichissement, le plan a été formellement présenté le vendredi dernier à l'ensemble des partenaires techniques et financiers. Ce PNDDR numéro 3 va nécessiter la mobilisation de 85 millions de dollars et la cible, c'est à peu près 12 000 combattants à désarmer et à réinsérer.
Et alors, en ce cadre, on parle de la contribution de la MONUSCO. Il s'agit des 8 millions de dollars, si je me trompe. Est-ce que vous confirmez cette information?
Mais je la confirme d'autant plus que c'est moi qui l'ai annoncé lors de cette présentation solennelle de ce plan. Ces 8 millions de dollars vont servir à soutenir les activités de préparation à la réinsertion dans les trois camps où actuellement vous avez à peu près 5 000 combattants qui sont déjà rendus, qui sont regroupés dans ces camps. Kitona, Kotakoli, Kamina.
Alors, est-ce que vous croyez, général, que 85 millions de dollars, c'est suffisant pour ce travail de désarmement des ex-combattants?
Oui, nous pensons que la cible de 12 000 combattants peut être traitée avec ces 85 millions de dollars. Je dois préciser que c'est un plan qui a été détaillé avec un budget détaillé qui a été soumis par le ministre de la Défense aux différents bailleurs de fonds. Et je dois dire aussi que la MONUSCO, la section de DR de la MONUSCO, a été étroitement associée à la préparation de ce plan, ainsi que les experts de la banque. Le gouvernement congolais a aussi annoncé une participation à hauteur à peu près pour la première année de 10 millions de dollars. Sur 46 millions de dollars, nous comptons pouvoir bénéficier des appuis extérieurs pour pouvoir boucler le budget pour la première année.
Et qu'est-ce qu'il en est de la démobilisation volontaire des FDLR?
Comme vous le savez, les FDLR ont à plusieurs reprises manifesté leur désir de se désarmer volontairement. À cet effet, les autorités congolaises ont été saisies, d'autres personnalités nationale et internationale, notamment la SADC, la Conférence internationale de la région des Grands Lacs. Et dans ces conditions, le gouvernement congolais a estimé que si la volonté des FDLR de se désarmer de façon volontaire était réelle, il n'y avait pas lieu de lancer des opérations militaires et qu'il fallait donner une chance au processus. C'est ainsi que le 27 mai dernier, les autorités gouvernementales congolaises ont demandé à la MONUSCO d'appuyer la mise en œuvre de ce plan. Ce plan devrait commencer le vendredi 30 mai 2014 et s'achever dans une période de 3 semaines. Et d'après ce plan, entre le Sud Kivu et le Nord Kivu, il y avait à peu près 1400 combattants qui allaient se désarmer avec 4200 dépendants des femmes et des enfants. Et moi, j'étais en charge de la mise en œuvre de ce soutien opérationnel pour qu'ils commencent à se rendre.
Et justement, vous parlez des FDLR, le gouverneur de la province orientale, Jean Bamanissa, que vous connaissez, il a visité jeudi dernier un camp militaire de Kisangani qui va accueillir prochainement pendant quelques jours en transit vers Irebou à l'Équateur des éléments FDLR désarmés. Quelle est votre réaction devant cette évolution générale?
Oui, alors vous parlez du camp base qu'on appelle maintenant le camp ECTB.
Justement.
Le CETB, Centre d'entraînement tactique du bataillon. Le gouvernement congolais a décidé d'utiliser ce camp comme centre de relocalisation provisoire de tous les éléments FDLR de leur dépendant qui vont venir du Nord Kivu et du Sud Kivu. Vous avez raison, initialement, dans le plan du gouvernement, c'était la localité de Irebou dans la province de l'Équateur qui devrait servir de destination finale. Le gouvernement vient de décider maintenant que ce sera Kisangani et à partir de Kisangani, le gouvernement a demandé à la communauté internationale de trouver des pays d'accueil pour que de Kisangani, ces gens puissent partir vers leur lieu d'exil. Je dois rajouter que pour ces éléments FDLR, ceux qui souhaiteraient être rapatriés dans leur pays, le Rwanda, sont libres de le faire et la MONUSCO, là aussi, va les aider à rentrer chez eux. Mais il faut que ce soit un désarmement complet, total et sans condition.
Et combien seront-ils à Kisangani parce qu'ils n'iront plus à Irebou?
D'après le plan que le gouvernement nous a présenté, c'est une cible d'à peu près 1400 combattants avec 4200 dépendants de leur famille. Ceux qui vont souhaiter retourner dans leur pays, le Rwanda, nous allons les envoyer. Donc à ce stade des choses, je ne peux pas vous dire combien vont arriver finalement à Kisangani. Avant, là encore, j'insiste, le gouvernement congolais a été très clair. Kisangani ne sera pas une destination finale. Kisangani est une destination provisoire en attendant leur départ vers leur pays d'accueil.
Parlons maintenant de ex-combattants M23 et ceux qui sont en Ouganda. Ils seront rapatriés au pays et après l'amnistie qui a été déclarée par le gouvernement. Quel rôle va jouer la MONUSCO en ce qui concerne ces ex-combattants M23?
Quand il y a eu les déclarations de Nairobi, il y a eu de part et d'autre des engagements. La RDC s'est engagée à accorder l'amnistie pour ceux qui ne sont pas recherchés pour des crimes graves, des crimes contre l'humanité ou en tout cas qui ne font pas l'objet de mandats d'arrêt international ou national. Donc ceux-là, à l'heure où je vous parle, nous sommes en négociation, en discussion avec les autorités gouvernementales congolaises pour que en accord avec les pays, notamment l'Ouganda et le Rwanda, pour que nous puissions aller rencontrer les autorités de ces pays, rencontrer ces éléments M23 et essayer de leur faire signer les actes d'engagement pour qu'ils bénéficient de l'amnistie et maintenant commencer à les ramener, du moins pour ceux qui sont congolais, qui sont reconnus comme tels par les autorités congolaises. Nous allons aider la RDC.
Vous à supposez ramener... qu'il y a des Rwandais là aussi, dans, parmi ces ex-combattants?
Écoutez, je vous parle des ex-M23 qui sont réfugiés en Ouganda
oui.
et au Rwanda. Alors, s'il y a des Rwandais parmi eux, nous n'avons pas affaire à eux puisqu'ils sont déjà chez eux. On ne va pas les rapatrier au Congo.
Oui.
Non, ce qui nous concerne, ce qui nous intéresse, ce sont les combattants, les ex-M23. Alors, s'ils souhaitent revenir dans leur pays, après leur amnistie, nous allons voir la possibilité de soutenir ce retour pour qu'ils viennent participer au processus DDR tel que mis en place.
Je voudrais repréciser ma question. Quel sera l'apport de la MONUSCO lorsqu'ils seront maintenant rentrés au pays et en ce qui concerne notamment leur réinsertion ici en RDC?
Deux choses. La première chose, comme je vous l'ai dit, à l'heure où je vous parle, nous sommes en discussion avec les autorités congolaises pour appuyer les missions qui vont aller et en Ouganda. Ensuite, si nous arrivons à aboutir, et j'espère que nous allons aboutir, nous allons appuyer le rapatriement de ces gens vers les différents camps où ils vont aller au travers du processus DDR. Le processus DDR lui-même, la MONUSCO le soutient à hauteur de 8 millions de dollars. Donc quand ils seront dans ces camps, ils pourront bénéficier, comme les autres éléments du groupe armé, de l'assistance et de l'appui que nous apportons à l'ensemble du processus DDR.
Pour terminer, général, une toute dernière question. Que pensez-vous de ce que pensent certains observateurs en ce qui concerne justement l'équation RDLR en République démocratique du Congo? Ils pensent que la solution à cette équation doit passer par un dialogue.
Écoutez, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Nous, la MONUSCO, nous avons un mandat. Notre mandat, c'est d'appuyer les autorités congolaises pour éradiquer les groupes illégaux, les groupes armés, appuyer l'autorité de l'État congolais pour se déployer partout sur le territoire congolais. En ce qui concerne les groupes étrangers, où ils acceptent volontairement de rentrer chez eux sans condition. Et là, je constate que pour le Rwanda, ça ne pose pas problème. Maintenant, nous ne sommes pas là, nous, pour exiger un quelconque dialogue entre ce pays ou tel autre pays.
Ce n'est pas dans votre mandat.
Cela non seulement ne fait pas partie de notre mandat, mais je crois que les Rwandais l'ont clairement dit. Les FDLR, tant qu'ils ne renonceront pas à l'idéologie génocidaire, tant qu'ils ne déposeront pas les armes en tant que groupe armé illégal, eh bien il n'y aura pas de dialogue avec le Rwanda.
Général Abdallah Wafi, nous vous remercions.
Merci bien, au revoir.
La nouvelle des provinces nous mène tout droit au Kasaï oriental où s'est clôturé mercredi à Mbujimayi les travaux de la revue semestrielle des activités du programme de coopération RDC-UNICEF organisé par le ministère provincial du plan en collaboration avec l'Institut national des statistiques INS en abrégé. Ces travaux ont permis d'assainir la planification des activités pour le second semestre de l'année en cours. Honoré Chilumba Wabantu nous en dit plus.
Ces travaux des trois jours avaient pour objectif de jeter un regard rétrospectif sur les actions menées par des structures gouvernementales et des ONG intervenant dans le secteur de l'enfance. Protection, survie de l'enfant, éducation des bases et environnement favorable à l'enfant sont là des composantes concernées par cette revue semestrielle du programme de coopération RDC-UNICEF. Une trentaine de partenaires de mise en œuvre ont pris part à ces assises. Elles ont tour à tour présenté les rapports d'activité menés de janvier à juin 2014. Exercice suivi des questions et enrichissement par la Assemblée. D'après les participants, les indicateurs présentés dans chaque composante du programme sont satisfaisants. À titre d'exemple, la composante protection a relevé les avancées significatives quant à la justice pour enfants. Conséquence logique de l'implantation du tribunal pour enfants en Mbujimayi. Dans les secteurs éducatifs, les participants ont relevé le fait que l'appui de l'UNICEF a permis d'améliorer la qualité de l'enseignement et de réduire les taux de doublement des classes. Même constat dans les secteurs de la santé, avec notamment l'amélioration de la couverture vaccinale à travers toute la province du Kasaï oriental et dans celui de l'environnement grâce au programme École et Village assainis. Celui-ci a contribué considérablement à l'amélioration des conditions environnementales en milieu ruraux. Pour sa part, le ministre provincial du plan, Jean-Claude Moustas Manyong, a félicité l'UNICEF. Il a pris engagement d'accompagner toutes les structures dans la mise en œuvre du programme RDC-UNICEF pour le Kasaï oriental au cours du deuxième semestre 2014. Mbujimayi, Honoré Chilumba Wabantu, Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
La question de ce dimanche porte sur l'insécurité dans la ville de Goma. Elle est posée par Jean-Pierre Kaembe de la RTGA. Écoutez aussi la réponse proposée par le général Carlos Dos Santos Cruz, commandant des forces de la MONUSCO.
Jean-Pierre Kaembe pour RTGA, une question au général. Vous venez de Goma où il sévit une criminalité impossible dans la ville. Rares sont ceux-là qui sortent encore après 18h. On en a pour preuve des cas de meurtre et de braquage qui sont enregistrés tous les 2-3 jours. Et ça relance la question sur la circulation d'armes dans la ville. On sait que votre ultimatum a été tout sauf une réussite. Quels sont les défis que vous rencontrez dans la sécurisation de la ville?
Le problème de la criminalité à Goma, hein, c'est un problème de la sécurité publique. Ce n'est pas un problème militaire. Basiquement, c'est un problème pour la police et la police nationale congolaise et la police des Nations Unies. Normalement, il y a une planification et il y a une action conjointe de la police. La force militaire, dans ce cas, c'est seulement une collaboration. Parce que ce n'est pas possible de planifier une opération militaire pour les problèmes de sécurité publique. Il y a les forces appropriées qui sont la police congolaise avec le soutien de la police des Nations Unies.
Magazine des Nations Unies. Portrait visible.
Bonjour chers auditeurs, c'est Sylvie Olelao Dimba. Je suis spécialiste en relèvement communautaire au PNUD, donc l'Agence des Nations Unies pour le Développement. Ça va bientôt faire 2 ans que j'y travaille. Pour ce qui est de ma formation, je suis licenciée en droit de l'Université catholique de Louvain en Belgique. Et ça va faire bientôt 6 ans que je vis et travaille ici à Kinshasa. J'ai travaillé d'abord pendant 4 ans dans un cabinet d'avocats. J'étais collaboratrice au sein du département de propriété industrielle. Et donc, comme je vous l'ai dit, depuis maintenant 2 ans, je travaille au PNUD. L'essentiel de mes fonctions, c'est de gérer et de superviser la mise en place de nos projets. Moi, je travaille essentiellement sur les projets qui sont exécutés à l'est du pays et qui visent la réintégration socio-économique des femmes et des vulnérables. Pour ce qui est de ma vie personnelle, je suis mariée également depuis bientôt 4 ans. Je n'ai pas encore d'enfant. Et pour un peu me décrire, je suis quelqu'un de très sociable qui va profiter de sa famille, de ses amis, de la vie à l'église. Je suis très engagée dans mon église. J'aime beaucoup le sport. J'essaye de me discipliner pour faire du sport 3 fois par semaine. Et j'aime la lecture. Donc là, je viens de finir une trilogie, la saga Cortez de Catherine Pancol. C'est une histoire assez sympathique sur 2 sœurs et les rapports entre sœurs, les jalousies, les rivalités. C'était assez intéressant, je vous le recommande. Ah, pour la musique, mais je suis quand même très fan de la musique française. Donc pour citer, c'est une actrice, une chanteuse comme Axel Red, une chanteuse belge, celle qui est très célèbre pour son titre Sensualité. Donc ça, c'est quand même ce qui est dans ma voiture, c'est Axel Red, c'est la musique gospel également, Kirk Franklin, les artistes congolais aussi, hein, Gaël, etc. Et pour ce qui est de mes projets ou de comment je me visualise dans les prochaines années, mais c'est déjà évolué au niveau familial, y aller, d'avoir mes enfants et également de pouvoir évoluer dans d'autres pays, toujours au sein du PNUD ou des agences des Nations Unies. Je vous remercie.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Cap.
Notez ce rendez-vous, la 20e conférence internationale sur le sida se tiendra à Melbourne en Australie. Environ 1400 personnes vont y participer. Et un autre rendez-vous dans la même semaine, soit le 22 juillet, il se tiendra à Londres en Angleterre, le sommet de la FI 2014.
Thank you.
se termine cette émission présentée par Lydie Bessina sous la supervision de Nicole Ngaka et la coordination de Jean-Pierre Elali Koko. Honoré Missing a été au reportage et Guy Manzangou à la mise en onde. L'émission est à réécouter sur notre site internet radiookapi.net. Merci de nous avoir suivis et à dimanche prochain.